Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Un changement dans le quotidien à l'hôpital. C'est la promesse, avec des hausses de salaire significatives, du Premier ministre Édouard Philippe aux personnels hospitaliers. Le Ségur de la santé, censé résoudre enfin les difficultés de l'hôpital public, a commencé aujourd'hui en France. Après 2 mois de crise du coronavirus qui ont mis en évidence des difficultés dénoncées depuis longtemps et depuis plus d'un an dans la rue par les personnels soignants, une nouvelle concertation s'ouvre. Les deux précédents plans pour résoudre la crise de l'hôpital public n'ont pas fonctionné. C'est Emmanuel Macron qui l'admet. Ce nouveau plan va-t-il être le bon ? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, 3 invités sont en direct avec nous par téléphone. Florence Pinsard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cadre de santé au centre hospitalier de Pau, dans le sud-ouest de la France, membre du collectif Interhôpitaux, et vous avez participé aujourd'hui à la première visioconférence de ce Ségur de la santé. Frédéric Bizard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste de la santé, professeur d'économie associé à l'ESCP Europe, président de l'Institut Santé et auteur du livre « Alors, la réforme globale de la santé, c'est pour quand ?» aux éditions Fauve. Et Jean-Dominique Simonpoli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'association Dialogue, lieu d'échange entre syndicalistes, chefs d'entreprise, spécialistes des questions sociales, co-auteur de l'ouvrage « Le dialogue social en France, entre blocage et Big Bang ». C'est chez Odile Jacob. Florence Pinsard, vous avez donc participé à cette première visioconférence. Question simple d'abord, c'était comment ? Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
C'était essentiellement l'expression là de chacun, ouverture donc du Premier ministre avec l'annonce des piliers du Ségur, de Monsieur Véran avec l'organisation un petit peu et la méthode de travail. Et puis après, c'était l'expression de chacun avec différents syndicats, syndicat des directeurs, syndicat des médecins, de la psychiatrie, le collectif Interhôpitaux et la CFDT à parler aussi. Je pense que tout le monde n'a pas pu s'exprimer, mais une première rencontre.
Qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Ce que j'en retiens, c'est que j'espère qu'il n'y a pas que des promesses, parce qu'effectivement, les mots étaient forts par le Premier ministre en disant qu'aucun métier ne sera oublié, qu'il va y avoir une vraie revalorisation des salaires des métiers de l'hôpital public. On attend ça depuis tellement longtemps, on nous a promis tellement de choses et tellement de choses mises sous condition ensuite. On est en attente, on n'est pas totalement confiant non plus, donc il va falloir qu'on nous écoute, et ça, Monsieur Véran a demandé qu'on soit force de proposition, et on va l'être, parce que je pense qu'on est prêt, et ça fait longtemps qu'on est prêt à écouter. Il faut écouter les gens du terrain absolument pour que ça fonctionne.
Frédéric Bizard, vous attendiez vous aussi cette reprise de contact, comme beaucoup de monde, même question, qu'est-ce que vous en retenez ?
Et vous l'avez dit en introduction, il y a eu, on est un peu au troisième grand discours de premier plan avec M. Édouard Philippe en mars 2018 pour lancer Ma Santé 2022, exactement le même format. On lance des groupes de travail. Puis il y a eu le président de la République en septembre 2018. J'invite les éditeurs à relire les discours parce qu'ils étaient vraiment pleins de promesses et plutôt assez remarquablement construit. Et puis donc là, on a le troisième discours avec « on relance les groupes de travail ». Malheureusement, avec exactement le même cadre, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité des différentes lois qui ont été réalisées 2004, 2009, 2015, 2019. Je n'ai pas entendu une seule remise en cause du cadre général qui a conduit à cette crise. Alors la grande différence, elle est quand même que là, on est sur une obligation de résultat à court terme dans des négociations salariales. Parce que si le gouvernement a réagi aussi vite, c'est qu'il sait bien qu'aujourd'hui, le pouvoir des soignants, et en particulier le pouvoir des soignants à l'hôpital, après 3 mois de crise Covid, est une vraie menace politique. Donc il faut y répondre. Mais là où je suis un petit peu sceptique, c'est que je pense que apporter cette réponse-là était déjà un objectif important. Mais là, on a essayé d'habiller cette négociation-là en une transformation globale de la santé. Alors, vous savez, il y a Michel Crozier qui a écrit il y a une trentaine d'années qu'on ne change pas la société par décret. On ne va certainement pas changer le système de santé par décret et certainement pas l'hôpital par décret. Donc cette approche très précipitée, à marche forcée en 2 mois, malheureusement, est une erreur dans la forme. Mais au moins, essayons de retisser la confiance, ce qui a été dit, et ça, je le partage, entre le personnel hospitalier et les pouvoirs publics, parce qu'on a besoin de cette confiance pour l'étape d'après, qui est la reconstruction du système.
Alors, Michel Crozier, grand sociologue des organisations. Jean-Dominique Simonpoli, après un an de conflit entre le gouvernement et les soignants, le rétablissement du dialogue va-t-il de soi ? Le mot méfiance a été prononcé tout à l'heure par Florence Pinsard.
Écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui caractérise comme la période, c'est que ce qui paraissait impossible il y a encore quelques mois devient possible. Et donc, ça rabat profondément les cartes. C'est-à-dire que dans le monde hospitalier, les revendications qui avaient été formulées depuis bien longtemps, d'ailleurs, qu'elles soient en matière salariale, en matière d'emploi et de manière plus générale, c'était aussi le devenir de l'hôpital public qui était posé. Et il est vrai qu'aujourd'hui, ces questions, elles apparaissent encore plus fortement. Et il est clair que le gouvernement, il a intérêt à amener des propositions précises, parce qu'autrement, il risque d'y avoir une flambée de mécontentement qui se mette en route dans quelques semaines, et ça va créer des fortes tensions. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à la différence de la situation générale, c'est que là, on a plusieurs partenaires qui sont au cœur de cette négociation qui s'ouvre. Il y a l'État, bien évidemment, mais il y a aussi tous les pouvoirs publics dans leur ensemble, il y a les syndicats de salariés, mais il y a aussi le collectif interhôpitaux, et il y a les syndicats de médecins et autres. Donc on voit bien aussi que la multiplicité des acteurs va rendre peut-être la négociation un peu plus compliquée. Mais en tout cas, il y a des fortes attentes d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, du côté des pouvoirs publics pour essayer d'éteindre le feu, et du côté des soignants pour tenter d'obtenir satisfaction. Et je vous dis, ce qui était impossible devient possible, et donc à partir de là, ça ouvre des perspectives tout à fait importantes pour tous ceux qui, depuis longtemps, se battent pour le devenir de l'hôpital public et la revalorisation des métiers.
Florence Pinsard, il manquait quoi au précédent plan ? L'argent ? L'écoute peut-être aussi ? La volonté d'écoute ?
La volonté d'écoute, très certainement, avec surtout une gouvernance hospitalière qui ne nous donnait pas la parole, avec une décision finale uniquement des directeurs, même les présidents de CME, je n'avais pas la décision finale. Donc je pense qu'effectivement, on a besoin de refonder tout ça. Il y a les usagers aussi. Je pense qu'il faut écouter les usagers. Ils ont énormément d'attentes eux aussi par rapport à ce Ségur, et ils sont très importants aussi dans les négociations. Donc c'est sûr, il faut écouter les gens de terrain, la crise l'a montré. Quand on nous écoute, d'ailleurs, on nous a demandé ce qu'il fallait faire. C'était très simple. On nous écoute, on nous donne les moyens, et là, ça fonctionne.
Oui. Frédéric Bizard, j'en viens au volet économique. L'argent a manqué sur ces précédents plans ? On a voulu faire tout à frais quasiment constants ?
Deux choses. D'abord, vous savez, notre système de santé est un des systèmes qui dépense en part de PIB. On est à la troisième position, donc un niveau relativement élevé. Moi, j'ai toujours considéré que qu'il n'y avait pas trop de dépenses. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un vrai problème d'allocation des ressources. C'est vrai sur l'ensemble du système. Il y a des dépenses administratives parmi les plus élevées au monde. Notre système dépense 16 milliards de dépenses administratives. C'est deux fois plus que la moyenne des pays européens si on ramène cette dépense par habitant. Notre système dépense beaucoup plus si vous la ramenez au niveau des patients chroniques, parce qu'on n'a pas organisé les parcours. Donc il y a une déperdition très importante. Et puis au sein de l'hôpital aussi, vous avez, malgré une dépense qui est relativement élevée, un personnel soignant qui est insuffisant et qui est mal rémunéré. Donc on voit bien qu'il y a un vrai problème d'allocation de ressources, parce qu'on a une approche purement comptable. On n'a pas une approche médico-économique. On dit toujours, mais il ne faut pas être effrayé par la réflexion économique à l'hôpital. L'hôpital n'est pas là pour être rentable, mais l'hôpital est là pour optimiser chaque euro investi, surtout que c'est un euro d'argent public. Bon. Donc, je ne vois pas là aussi d'évolution par rapport à cette volonté de mieux répartir l'argent, parce que si on ne fait qu'augmenter les charges de l'hôpital sans repenser l'hôpital dans sa globalité, on va vers des lendemains très douloureux pour l'hôpital public. Restructurer l'hôpital, la rendre plus productive, ça a été très justement dit par le monsieur avant moi, par la revalorisation des métiers. L'hôpital est un outil de travail absolument formidable, sauf qu'il ne faut pas le rigidifier pour que chaque carrière soit identique et que les gens ne puissent pas exploiter ce capital en matière de recherche, en matière d'enseignement, en matière de soins. Mais encore faut-il le réinventer, l'hôpital public. On ne peut pas considérer que l'hôpital public de 58 sera l'hôpital public demain. Je prends un exemple à Trivalence. Vous savez, c'est le fait qu'un praticien hospitalier, praticien universitaire, puisse à la fois faire du soin, de la recherche et de l'enseignement. Tout ça est une illusion aujourd'hui. Donc il faut permettre de construire des carrières qui soient adaptées à la réalité et qui rendent attractif le métier, au-delà de la rémunération. Mmh. Et l'hôpital public a le capital pour recréer de l'attractivité. Mais penser que c'est juste un problème de rémunération ou penser que c'est juste un problème d'effectif, à mon avis, est une erreur et je crains qu'on s'arrête à cette approche quantitative. On a énormément de mal, et ce n'est pas lié au pouvoir public uniquement, mais cette institution a énormément de mal à avoir une approche qualitative.
Oui.
C'est toujours plus d'emplois, toujours plus de rémunération, mais il faut l'associer à une approche qualitative aussi, parce que c'est la richesse de l'hôpital.
Jean-Dominique Simonpoli, les salaires, c'est la condition sine qua non pour que cette négociation avance. C'est un préalable nécessaire ?
Ah ben oui, il y a tel retard salarial qu'il est clair que c'est une question tout à fait décisive hein, pour les personnels, déjà au-delà de la période qu'ils ont traversée ces derniers mois, de manière plus générale, quand on voit le classement...
Quand vous parlez de retard, oui, allez-y, le classement par rapport aux autres pays européens.
Aux autres pays européens, enfin la France, elle fait partie des plus mauvais pays, en l'occurrence, sur le coût, enfin les coûts des salaires des personnels hospitaliers. Mais je voulais faire une remarque sur ce que disait monsieur auparavant, c'est que on voit bien qu'on est aussi au cœur d'une problématique qui risque de se développer d'ailleurs dans beaucoup d'autres secteurs d'activité que celui de l'hôpital public. C'est aussi la question de l'utilité des services publics et de l'utilité des services publics et qui va en décider de cette utilité. Et on voit bien qu'il y a des personnels, ce que disait madame tout à l'heure, mais il y a aussi les usagers. C'est-à-dire, il est clair que des négociations de cette nature, si on veut faire un Ségur de la santé, comme on a fait un Grenelle en 68, ben, il est clair qu'il faut associer l'ensemble des parties prenantes. Et les parties prenantes de l'hôpital, c'est l'État, c'est aussi les collectivités locales, mais les personnels, bien évidemment, mais c'est aussi plus généralement les usagers. Tous ceux qui vivent et qui sont amenés à un moment donné à rencontrer l'hôpital. Ce qui est vrai pour l'hôpital public, c'est vrai pour d'autres services publics. On voit bien qu'en fait, on est aussi au début peut-être d'une réflexion plus globale sur la façon dont on va gérer des évolutions de cette nature. Et qui est-ce qui doit les gérer? Qui est-ce qui doit les piloter? Et est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir aussi une vraie démocratie sociale pour favoriser un peu l'émergence d'innovation peut-être qui existe dans les esprits de beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, des personnels et plus généralement même des usagers, sur la manière d'avoir un hôpital qui soit de qualité et un hôpital qui soit au service de ses usagers. Donc peut-être que là aussi, on voit bien que le Covid-19, ça a ouvert aussi des perspectives nouvelles en termes de démocratie sociale.
Alors on va parler évidemment de toutes ces questions d'organisation, mais on va peut-être. J'aimerais conclure avec vous, Florence Pinsard, conclure ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, sur les salaires. Des hausses de salaires significatives sont annoncées par le Premier ministre. Est-ce que vous craignez ne pas avoir la même interprétation que le Premier ministre du mot significatif ?
Mais c'est-à-dire que peut-être que pour lui, significatif, il va avoir l'ensemble de chaque augmentation. Là, j'entendais le professeur Grimaldi sur une autre radio qui disait que c'est 450 euros par mois qu'il est nécessaire d'avoir en plus pour atteindre la moyenne des pays de l'OCDE actuellement. Donc c'est vraiment significatif, c'est 450 euros par mois. Je voulais revenir aussi sur ce que disaient les deux messieurs. Effectivement, il n'y a pas que le salaire. Pour attirer... Le salaire est important pour attirer les jeunes soignants et tous les métiers de l'hôpital. Le salaire est important. La notion de titularisation va être importante aussi. Il y a vraiment pas d'homogénéité au niveau de la nation là-dessus. Il y a des établissements qui titularisent au bout de 7 ans, d'autres au bout d'un an. Mais tout ça, ça va pas suffire. Il va falloir fidéliser les gens aussi. Et ça, c'est des conditions de travail. Et ça, c'est de la possibilité d'évoluer dans sa carrière. C'est la possibilité de partir en formation parce qu'actuellement, on a du mal à faire partir les équipes en formation, à cause du manque de personnel. On retient les gens qui ont des formations acceptées parce qu'on ne peut pas les laisser partir parce que le planning ne le permet pas. Donc oui, il faut vraiment travailler sur tout ça. Et du coup, le nombre d'agents est quand même la base pour pouvoir faire plein d'autres choses dans l'hôpital.
Alors les embauches, il y avait eu aussi une autre revendication très importante dans le mouvement qui dure depuis un an, plus d'un an maintenant, c'est l'arrêt des fermetures de lits. Il y a un responsable de l'Agence régionale de santé du Grand Est qui a été limogé pour avoir dit qu'à son avis, cela devait continuer. C'est culturel de fermer des lits, Frédéric Bizard, il va falloir aussi là peut-être changer l'état d'esprit des gens.
Non, mais la fermeture de lits ne veut pas, et c'est tout le problème de la gouvernance actuelle, où on vous donne des objectifs, en effet, quantitatifs de réduction du personnel, de réduction d'un certain nombre de moyens. C'est pas comme ça qu'on peut rendre attractif le système. Il faut prendre un certain nombre de mesures qui peuvent se traduire dans quelques cas par des fermetures de lits, dans d'autres cas par des agrandissements de services. Il est vrai que dans certaines activités, si on prend la chirurgie, par exemple, le développement de la chirurgie ambulatoire fait que les durées moyennes de séjour baissent, donc il peut y avoir moins de demandes de lits. Mais il est clair que dans les lits d'aval, où il est absolument scandaleux qu'il y ait un vrai problème pour trouver ces lits d'aval dans un pays comme la France. Donc on ne peut pas faire de la fermeture de lits des objectifs. C'est absolument stupide, mais c'est une approche purement administrative. On ne peut pas non plus reprocher à l'administratif à qui on a donné un pouvoir exubérant d'exprimer sa vision administrative où il faut rentrer dans un budget. Donc on voit bien que là, c'est la gouvernance qu'il faut repenser. Et là, je n'ai pas du tout entendu. On a même dit que les agences régionales de santé avaient fait un remarquable travail pendant cette crise, ce qui est quand même une drôle d'interprétation de ce qui s'est passé. Mais comme on ne fait pas de bilan des trois mois, ça aurait été intéressant quand même de faire un bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et d'ailleurs, ce qui a le mieux marché pendant ces trois mois, c'est l'hôpital public. Donc, vous voyez que l'hôpital public est malade parce qu'il y a un vrai problème de défiance et il y a un vrai problème de conflit social. Mais l'hôpital public ne va pas si mal que ça parce que lorsqu'il est sous tension, il retrouve très rapidement. Parce qu'on a une histoire, on a une médecine hospitalière qui est quand même de renom. Donc, il faut la revivifier. Par contre, là où c'est un désert, c'est toute la santé publique, c'est la politique de prévention, c'est la médecine scolaire, c'est la médecine du travail, ce sont les réserves stratégiques pour se protéger par rapport à... Tout ça est à construire. Donc on voit bien que, je suis désolé, mais on fait un petit peu, et monsieur avant a très justement parlé d'une démocratie sanitaire, enfin une démocratie sociale, c'est une démocratie sanitaire qu'il faut construire, parce qu'il faut protéger l'ensemble de la population, pas simplement les gens qui ont des pathologies graves à l'hôpital. Et là, je ne vois pas tellement de virages. Je vois ni le changement de paradigme qu'on nous a annoncé, ni de virage. Or, c'est vraiment une nécessité. Et donc, je crains que ce soit une occasion manquée, mais j'espère me tromper.
Oui. Florence Pinsard, l'arrêt des fermetures de lits, c'est comme les salaires, c'est quelque chose de fondamental dans les revendications du collectif Interhôpitaux.
Oui, c'est fondamental. On estime qu'il faudrait à peu près qu'on ait 15% à 20% de lits en permanence vides pour arriver à mieux absorber, alors j'aime pas ce terme, les flux, mais c'est quand même ça. On ne nous parle que de taux d'occupation des lits sans cesse. Il faut qu'on tourne à 99% de notre occupation des lits. Ça, on est dans un carcan absolu. Ça nous oblige des fois à faire sortir des patients peut-être un peu trop prématurément. Et surtout, moi qui travaille en gériatrie, un patient qui sort trop tôt, c'est un patient qu'on retrouve aux urgences. Avoir des lits vides, mais pas vides parce qu'on ne travaille pas, vides parce qu'ils sont là pour pouvoir accueillir des patients qui arrivent des urgences et les accueillir rapidement. Le CIH, je pense clairement que ce serait une bonne solution. Oui.
Oui. Jean-Dominique Simon-Poli, est-ce que pour rassurer les personnels et pour rassurer les usagers, dont on a beaucoup parlé depuis le début de cette émission, est-ce qu'il faut que le système hospitalier, en termes de nombre de lits, soit, comme l'indiquait Florence Pinsard à l'instant, légèrement surdimensionné ?
Oui, enfin, je pense que les deux personnes l'ont dit, chacune à leur manière, c'est que il faut redéfinir une gouvernance de l'hôpital qui fasse la place et la pleine place aux soignants eux-mêmes. Ce sont eux qui devraient diriger l'hôpital, non pas des administratifs qui ont d'autres préoccupations que celles de la santé de la population, hein, des préoccupations financières essentiellement. Mais moi, je voulais insister sur un aspect aussi, parce que on voit bien les soignants, ils ont mis en lumière aussi une caractéristique qui était profonde dans la société française et qu'on a niée pendant des années et des années, à tel point c'est qu'on ne les voyait pas, on ne les voyait plus. C'est l'importance d'avoir, de tous ces gens qui étaient en première ligne. Alors c'est vrai, c'est les soignants, mais c'est vrai, de manière plus générale, les caissières, les éboueurs, etc., tous ceux qui, au quotidien, ont fait vivre la société française, ont fait vivre notre pays, lui ont permis de ne pas s'effondrer. Mais c'est la reconnaissance de tous ces gens-là. Voilà. Je crois que derrière la question salariale, il y a la question de la reconnaissance. C'est une question tout à fait centrale, me semble-t-il. Et je pense que, alors je ne sais pas, moi je ne suis pas un spécialiste des questions sanitaires, mais peut-être que dans ce débat qui s'ouvre sur le Ségur de la santé, peut-être que c'est une revendication qui va apparaître. Comment on peut reconnaître, en dehors de la dimension salariale, qui est tout à fait essentielle, hein, je ne veux pas la nier, mais comment on va reconnaître aussi l'apport et le rôle qui a été le rôle de toutes ces milliers et ces dizaines de milliers de personnes tout au long de ces 3 mois. Et plus généralement de tous ceux dont on ne parle pas, hein, qu'on avait vus dans les ronds-points il y a quelques mois, etc., qui sont quand même la force vive de notre nation. Et comment on va reconnaître le travail de ces gens-là ? C'est une vraie question, me semble-t-il.
Florence Pinsard, depuis le début de cette émission, et quand on lit un petit peu tout ce qui se passe autour de cette crise de l'hôpital, on voit souvent apparaître l'idée qu'il faut redonner plus de pouvoir aux soignants et ceux qui sont au plus près du terrain dans les décisions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
C'est-à-dire qu'on nous regroupe par pôle ou par département pour les plus grands CHU et la PHP. On nous regroupe entre services qui ne fonctionnent pas forcément ensemble. S'il y a regroupement nécessaire, il faut que ce soit sur un parcours patient identique avec des spécialités qui peuvent travailler ensemble. Donc du coup, on perd le fil du terrain et on perd la décision finale. Il faut absolument que l'entité service redevienne vraiment l'entité de décision avec un conseil de service avec des élus de tous les métiers qui œuvrent dans ce service et pour pouvoir faire remonter aux instances au niveau de l'hôpital, décisionnel, ce que veulent et ce dont ont besoin et l'idée de fonctionnement des gens du terrain. Donc il faut absolument qu'au niveau de la direction de l'hôpital, il y a bien sûr les administratifs, le corps médical et les paramédicaux, et bien sûr les usagers, et redonner la place, effectivement, à mon avis, très importante aux unités fonctionnelles, aux services.
Oui, Frédéric Bizard, est-ce que ce sont les médecins qui commandent ou est-ce que c'est fini depuis longtemps ?
Non, mais vous savez, je crois que il faut reconstruire un système de santé pour les 50 ans à venir à partir de la nouvelle donne. La nouvelle donne, c'est qu'il faut un système de santé et plus un système de soins. Il faut partir des besoins du citoyen, des besoins de la personne, pour partir à partir et non pas à partir uniquement de l'offre. Hein. Jusqu'à maintenant, notre système, il a été géré, on a géré une offre de santé. On a médicalisé les territoires et puis on a géré des hôpitaux, des médecins de ville et du personnel des EHPAD. Il faut inverser la gouvernance en partant des besoins. Comment est-ce qu'on peut faire ? Pour ça, il faut partir du territoire. C'est-à-dire qu'il faut repenser un système en reconstruisant à partir de territoires de santé qu'on n'a toujours pas définis. Hein, on fait des lois après lois de projets territoriaux de santé, mais on n'a toujours pas défini de territoire. Donc il y a une nouvelle unité géographique qui doit être au plus près du citoyen, parce que ce citoyen, qu'il soit en bonne santé et qu'il soit malade, il faut lui apporter un certain nombre de services, une offre de services qui soit le plus adaptée à lui. Donc vous voyez que c'est pas simplement on ne part pas du soignant, on parle de son besoin. Donc c'est en ça où il faut une nouvelle gouvernance. Alors là, on a l'inverse, parce qu'en fait, on a cessé depuis 20 ans de centraliser la gouvernance dans les mains de la technostructure. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait, gauche comme droite ? Parce qu'on a pensé que c'était le meilleur moyen de maîtriser les dépenses. Mais ce qui se passe souvent lorsque on a un management, une gouvernance très technocratique, c'est qu'évidemment, on augmente les dépenses. Parce que vous augmentez les dépenses administratives, mais parce que aussi vous faites baisser la productivité des acteurs principaux, à qui on enlève un certain nombre de pouvoirs et qui sont les mieux à même d'organiser le service à l'hôpital ou le cabinet médical. Donc vous voyez, c'est quand même une évolution très importante. Et encore une fois, je ne pense pas que l'administration aujourd'hui du ministère de la Santé comme de Matignon soit prête à inverser cette gouvernance. C'est pour ça que malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour le citoyen. On peut améliorer un peu peut-être le quotidien du personnel soignant dans les mois qui viennent, mais je crains malheureusement que véritablement on n'aille pas beaucoup plus loin.
Jean-Dominique Simon-Pollier, est-ce que c'est pas un problème plus général dans l'organisation des administrations françaises que les gestionnaires aient pris plus de place que les exécutifs ?
Ah ben c'est tout à fait clair. Enfin, c'est pas simplement dans l'administration française, c'est de manière générale. C'est-à-dire on donne pas suffisamment de place aux acteurs de terrain, à ceux qui sont en responsabilité.
On n'écoute pas ceux qui travaillent, c'est ce que vous voulez dire en fait.
Oui, c'est ça, et on les écoute pas suffisamment. Il suffit de voir, regardez, alors, je connais pas le tour de table qu'il y avait ce matin au Ségur de la Santé, mais enfin, vous avez une multitude d'acteurs ou de représentants, enfin en tout cas de représentants d'organisations qui ont cherché de représenter les acteurs. Donc cette multitude, on peut considérer que c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse, parce que quand il y a tant d'acteurs, on voit bien que être arrivé à mettre tout ce monde-là d'accord, ça va être extrêmement compliqué. Donc il y a aussi un problème de représentation de tous ces acteurs, de représentativité des acteurs, ce qui fait que naturellement, ben, on se retourne vers l'État, et c'est l'État qui se charge, mais ça c'est l'histoire de notre pays, hein. C'est l'État qui se charge d'être celui qui va de trouver le bon compromis, et les acteurs apparaîtront, ou risquent d'apparaître, hein, en l'occurrence, comme étant un peu les dindons de la farce. Alors, oui, je pense qu'il y a la question qui est posée, mais pas simplement à l'hôpital, hein, et je crois que le Covid-19 le montre bien, c'est aussi comment on remet en perspective, et quand j'évoque ça, j'ai en perspective les risques de perte d'emploi, de suppression d'emploi qui vont apparaître dans les semaines et les mois qui viennent, c'est comment on redonne aux acteurs le soin de trouver, par des innovations sociales aussi, les moyens de trouver des solutions aux problèmes qui vont être posés. Parce que on l'a bien vu là, dans ces trois mois, on est sorti un peu de tout ce qui était institutionnel, on a laissé le soin aux acteurs de pouvoir s'emparer et trouver des solutions. Ça a été plutôt efficace. Je pense que dans les semaines qui viennent, pour l'hôpital, mais de manière plus générale, c'est aussi cette question-là qui est posée.
Florence Pinsard, parmi les critiques qui sont adressées au système actuel, c'est celle de la tarification à l'acte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et ce que ça entraîne ?
Ben, c'est-à-dire qu'on, du coup, l'hôpital est payé en fonction des actes qu'il fait uniquement. Alors ça, je pense que voilà, elle doit absolument baisser cette prise en charge par la T2A. On appelle ça T2A. Hein.
Ça veut dire qu'il faut faire du chiffre. Il faut résoudre des dossiers. C'est ça, c'est l'idée.
C'est ça. Tout à fait. Et alors ça peut être bien pour des opérations très bien calées, des choses qu'on fait tous les jours, ça peut être très bien. Mais par exemple, pour la prise en charge des patients chroniques, c'est absolument une catastrophe. On ne peut pas avoir un parcours et un temps de soins identiques pour chaque patient chronique. Et il faut vraiment qu'on puisse plus voir l'activité par rapport aux bons soins, aux justes soins, aux bons patients et aux justes coûts, que par rapport à quelque chose de réglé et de systématique qui finalement ne fonctionne pas.
Frédéric Bizard, il y a quand même une question qui se pose, et comme vous êtes économiste, je vous la pose. Quelle est la marge de manœuvre budgétaire pour tout ça ?
La marge de manœuvre budgétaire, elle est d'autant plus importante que vous associez une réforme global qui implique une revalorisation des carrières, mieux payer une infirmière qui a plus de responsabilités, mieux payer un médecin qui va pouvoir davantage mieux organiser son service, mieux répartir son temps de travail, faire moins d'administratif, plus de soins, tout ça est relativement facile à absorber et créer de la valeur ajoutée. En revanche, j'entends, et c'est très étonnant dans cette, on risque la surenchère dans cette approche un petit peu dans la forme qui a été faite, c'est que si on demande à chacun quel est son avis sur l'augmentation des salaires qu'il peut y avoir dans chaque profession, je crains quand même qu'on va avoir du mal, comme le disait monsieur avant moi, à mettre tout le monde d'accord. Donc oui. Bon, mais enfin, ça sent l'hypothèse. Donc il faut, encore une fois...
Il faut conclure,
il faut que ça s'accompagne de repenser la mission de l'hôpital et de repenser les projets à l'intérieur de cet hôpital de façon à... hors rémunération, la rendre la plus attractive possible.
Merci Frédéric Bizard, merci à tous d'avoir participé à cette émission, merci Florence Pinsard et Jean-Dominique Simonpoli, merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce, Charles Barré à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet rfi.fr et sur nos applications mobiles. Le prochain débat c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Appelez-nous, exprimez-vous.